Troisième heure qu'on va terminer comme à tous les jeudis avec la chronique de Christian Page qui va nous parler aujourd'hui du rapport du Pentagone sur les ovnis. Hein, ça fait beaucoup, beaucoup jaser, ça. On va parler, je vais me tourner vers vous et vous demander, est-ce que vous seriez prêt à faire des sacrifices pour prendre votre retraite plus tôt? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre, moi je préfère vivre le moment présent puis mettre de l'argent de côté, c'est pas trop, trop mon genre. Je vous dis ça parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie. Un couple, ils se sont serrés à la ceinture, là, je disais, c'est incroyable, mais ils ont pris leur retraite à l'âge de 29 ans, puis ils ont 3 enfants. Puis je vais vous raconter un petit peu comment ils s'y sont pris, mais ils ont fait des sacrifices à court terme, puis là, ben, ils profitent de la vie. C'est intéressant, je vous demanderai ce que vous en pensez. On va faire une entrevue avec le prochain président de la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ, Éric Gingras. Nouvelle génération de leaders syndicaux. Je pense que le mouvement syndical est dû pour un renouvellement. Alors, vous l'écouterez, vous me direz ce que vous en pensez, mais il fait partie de cette nouvelle génération donc de chefs syndicaux. Mais d'abord, M. Lavoie.
Salut, Bernard.
Salut, mon Luc. Parle-nous un petit peu de ce qui se passe en Alberta.
Ben là, le fameux projet Keystone XL, là, dont on entend parler, Bernard, depuis une dizaine d'années, ben là, il est mort. Parce que TC Energy, qu'on appelait autrefois Trans-Canada Pipeline, a décidé qu'il mettait la hache dans le projet, puis même ses partenaires, dont la province d'Alberta, qui a investi 1,5 milliard dans ça, alors puis ont consenti des prêts jusqu'à 6 milliards de dollars. Alors là, c'est faut que nos auditeurs comprennent une chose. Le pétrole albertain est enclavé. Il n'y a pas de mer, là. Il n'y a pas de rivière qui peut nous permettre de le transporter. Alors, tout ce que tu peux faire, c'est le transporter par train. Alors, ça fait que le coût de transport est tel que le pétrole albertain se vend à 40% à peu près en bas du marché mondial. Alors, les Albertains sont absolument en furie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Barack Obama avait bloqué ce projet-là en 2015.
Oui.
Donald Trump l'a fait revivre, je pense que c'était en 2019. Et voilà, c'est encore un démocrate. T'sais, tu vois, on a tendance au Canada à dire quand les démocrates sont au pouvoir, ça va mieux. Dans ce cas-là, les Albertains ne seraient pas d'accord avec ça.
Écoute, les Albertains.
Projet majeur, là, tu sais, on parle d'un oléoduc qui devait permettre d'acheminer environ 830 000 barils de pétrole par jour de l'Alberta vers le Texas.
Oui. Mais les environnementalistes, évidemment, eux autres, sont très heureux. Mais
ils sont très heureux, puis la gauche du Parti démocrate, c'est pour ça que et Obama et Biden disaient non, là. Tu sais, c'était pour faire plaisir à l'aile plus militante du Parti démocrate.
Oui. Alors, évidemment, Kenny...
Il est dans de beaux draps parce que tout va mal.
Tout va mal. Et là, il va faire une espèce de diversion.
Oui, il va se faire une espèce de diversion en octobre, en même temps que les élections municipales. Les gens de l'Alberta, les citoyens albertains, vont devoir répondre à une question référendaire. Le libellé, l'article 36.2 de la loi constitutionnelle, blablabla, l'engagement du Parlement et du gouvernement Canada envers le principe des paiements de péréquation... devrait-il être tiré de la Constitution? Alors, vous connaissez la péréquation, c'est un mécanisme qui permet aux provinces qui ont une moins grande capacité fiscale que la moyenne canadienne, vu leur moins grande richesse, de recevoir des fonds du fédéral en compensation. Maintenant, ce référendum-là, d'abord, toi et moi, on peut le prédire, là, il va gagner à 80%, OK?
Ben oui.
Mais il n'y a aucun pouvoir d'agir. Il n'y a aucun pouvoir d'agir constitutionnellement, il n'y a aucun pouvoir d'agir institutionnellement.
Pour mettre fin à la Constitution, il faudrait amender la Constitution canadienne, ça prendrait 7 provinces qui représentent plus de 50%.
Ça marcherait pas, là.
Ben, il n'y a pas personne. À part les Albertains, je ne vois pas quelle autre province pourrait être d'accord avec ça.
Hein? Fait que moi, je trouve que Kenney, Bernard, dans ça, il joue... Ça fait un peu trop cute. Quand tu connais les Albertains, c'est des gens plutôt carrés, tu sais, ils doivent le regarder aller puis dire « OK, on va voter contre la péréquation, on est tanné d'alimenter le Québec qui n'a pas voulu que notre pétrole passe sur son territoire, on est tanné de ci, on est tanné de ça. » Mais il y a des gens qui vont dire « Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est pas ça qu'on lui demande, Kenny, on lui demande d'administrer la province. » Puis pendant la deuxième, troisième vague de la pandémie, c'est eux autres qui y ont goûté le plus en Amérique du Nord.
Ils vont dire « Ça fait chaud de boucan, hein, Luc. »
Ça fait terriblement chaud de boucan. Dans d'autres circonstances, il aurait pu s'en servir comme un outil politique, mais il est tellement affaibli que même s'il gagne son référendum par 80%, le fait demeure qu'il est derrière dans les sondages, le NPD le battrait présentement.
Oui.
Alors, Kenney, on s'attendait, moi je m'attendais à quelque chose de plus...
Sérieux.
de plus sérieux, puis de plus, comment dire, stratégiquement bien joué. Il s'est fait dépasser, ben évidemment, une crise économique majeure quand le prix du pétrole s'est effondré, puis le fait que les pipelines, il est pas capable de sortir son pétrole de la province, et là les Albertains n'en peuvent plus, s'en prennent à qui tu voudras, puis ça commence par Kenny. Alors préparons-nous un petit show de boucan là, qui va arriver au mois d'octobre, puis ça va être terrible. Puis ça va changer strictement rien.
C'est bien résumé. Biden qui s'en va au G7.
Hein, Biden, c'est une tournée européenne à la conquête du monde, que j'appelle ça. D'abord, on voit déjà que ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire le fait qu'on admire ou pas un pays, qu'on trouve que c'est un exemple à suivre ou pas, ben le soft power des Américains était tombé pas mal bas sous Donald Trump. Mais là, depuis son arrivée au pouvoir, donc le 20 janvier dernier, partout dans le monde, il y a eu un sondage réalisé par la firme probablement de sondage la plus prestigieuse au monde, Pew Research, dans 15 pays d'Europe et d'Asie, du Pacifique. Alors, 62% des gens interrogés ont une image favorable des États-Unis en 2021, contre seulement 34% à la fin du mandat de Donald Trump. Alors, c'est quelque chose de quand même assez important. Et là, ben, son voyage qu'il entreprend maintenant s'inscrit dans un très vaste programme extraordinairement ambitieux de reconstruction des alliances traditionnelles des États-Unis. Donc, il s'en va en Europe. D'abord, le G7. Il fait un arrêt en Angleterre. Évidemment, ça se passe en Angleterre, mais il fait un arrêt auprès des autorités britanniques. Il va voir Boris Johnson. Et il nous annonce que la Charte Atlantique, les gens doivent savoir que la Charte Atlantique, c'est le document signé par Winston Churchill et Franklin Delano Roosevelt en 1941 et qui portait sur le fait qu'il y aurait une relation spéciale entre les États-Unis et la Grande-Bretagne une fois la guerre terminée. Ben là, ce document-là n'a jamais été mis à jour. Entre toi et moi, c'est bien du papier, c'est très, très, très symbolique. Néanmoins, il arrive là, puis il leur annonce, on renouvelle cette entente-là, puis oublie pas que pour la Grande-Bretagne, c'est important, parce qu'elle vient de couper le lien avec l'Union européenne. Elle est une île, l'Angleterre, elle peut pas rester là toute seule. Oui. Alors, il arrive avec une main tendue. Cet après-midi, il va annoncer que les États-Unis vont donner 500 millions de doses de vaccins aux pays qui n'ont pas les moyens de se les offrir.
C'est beaucoup, 500 millions, mais...
C'est énorme, c'est énorme.
Oui, mais c'est quoi? On situe le chiffre, le pourcentage de l'humanité qui est toujours pas vaccinée, Luc? C'est quelques milliards, c'est sûr, là, mais...
Certainement quelques milliards, puis je pense qu'en pourcentage, Bernard, c'est une bonne idée de le souligner, là. Quelque chose comme à peu près 10% de la planète est vaccinée, puis le 10%, on les retrouve tous dans les pays riches.
C'est sûr,
c'est sûr. À peu près bon. Alors là, il mise à jour de la Charte Atlantique, il va voir les gens au G7, il va s'arrêter à l'OTAN, à Bruxelles, pour essayer de faire revivre cette alliance qui est de plus en plus agonisante et moribonde. Il essaie de recréer une situation qui avait disparu sous Donald Trump. Toutes ses alliances avaient sauté. Mais le problème, c'est que il veut les rallier avec lui pour s'opposer à la Chine. Oui. Et là, il n'y a pas consensus là-dessus. Par exemple, Angela Merkel, on le sait qu'elle va quitter en septembre, mais elle reste encore extraordinairement influente comme chancelière de l'Allemagne. Elle a dit, moi, j'ai pas envie d'avoir des relations tendues avec la Chine parce que les États-Unis veulent rester la première puissance mondiale. Tu sais, oublie pas, là, quand en Europe, là, Bernard, t'es sur le même continent que l'Asie. C'est un continent qu'on peut appeler Eurasie. Ils disent, mais pourquoi moi je couperais ça, ces relations-là? Pourquoi je m'embarquerais dans une guéguerre impliquant les Américains puis les Chinois? C'est pas une guéguerre, c'est une guerre planétaire, mais c'est une guerre à l'heure actuelle de mots. C'est une guerre de comment dire, on essaie de se situer par rapport à la réalité. Mais c'est un voyage extrêmement important, puis qui se déroule au moment où, parce que moi, de ce que je vois de Joe Biden, toutes les belles choses, mais aussi une machine à dépenser. Mais j'ai jamais pensé qu'on pouvait dépenser autant, surtout quand on n'a pas une scène. Alors, ce que ça donne, c'est ce qu'on craignait. Les prix à la consommation aux États-Unis ont bondi de 5% en mai sur un an aux États-Unis. Leur plus forte hausse depuis près de 13 ans, c'est-à-dire au moment là, où il y avait eu la fameuse récession. Alors, on parle ici de quand même 4% de plus au restaurant, 5,6% de plus. Les voitures d'occasion, un tiers plus élevé. Donc, C'est une grave inquiétude. Il va falloir qu'il réussisse à calmer ses alliés, parce que je veux dire, eux autres, ils disent, embarque-nous pas dans une affaire qui va tourner au vinaigre, et surtout l'Allemagne qui est connue pour avoir toujours maintenu et insisté pour maintenir une politique monétaire très rigoureuse et très sérieuse. Tandis que là, aux États-Unis, les taux d'intérêt sont essentiellement à zéro. T'es quasiment mieux d'emprunter de l'argent, c'est coûte moins cher. Alors c'est quand même une période extrêmement importante sur le plan géopolitique mondial. Bon. Mais moi, je voudrais juste terminer sur ce sujet-là en faisant le commentaire suivant. Je pense que Biden fait fausse route d'essayer de reconstruire une alliance sur laquelle il n'y a plus l'influence qu'il a déjà eue et qui de toute façon ne représente plus l'importance que cette géographie-là a déjà représentée.
Tu dis créer un front occidental contre la Chine, c'est voué à l'échec.
Moi, je pense que ce que fait Biden est voué à l'échec, oui. Il doit beaucoup plus travailler dans la région du Pacifique, dont il fait partie, n'est-ce pas, et d'essayer de développer des relations avec, évidemment, renforcer la relation avec le Japon, avec la Corée du Sud,
Taïwan.
Ses alliés les plus sûrs.
Taïwan,
c'est là, on joue dans quelque chose de dangereux et d'explosif. Néanmoins, essayer de maintenir une bonne relation avec Taïwan et tisser des liens. Évidemment, il y a l'Australie, là, il y a un groupement qui s'appelle Quad, mais t'as à côté de ça des pays qu'on appelle les nouvelles économies industrialisées, par exemple la Malaisie, l'Indonésie, tous ces pays-là. C'est là qu'il va aller chercher un appui significatif dans un affrontement avec la Chine.
D'accord. En terminant, celui qui a baffé...
Claque sa gueule.
Il veut dire ça coûte cher la claque sa gueule en France, mon homme?
18 mois de prison, en fait 4 mois ferme, 14 avec sursis, mais je dois te dire une affaire, la claque sa gueule est arrivée lundi, puis le gars est déjà en prison. Ça va plus vite que chez nous.
Mais c'est quoi, c'est considéré comme un voie de fait? Une voie de fait, c'est quoi ça?
Voie de fait, oui.
Ouais, c'est ça.
C'est ce que je comprends, là. Mais là, Macron a essayé de leur dire, non, c'est pas grave. Il a minimisé ça, puis il estime que le pays est pas dans une situation de tension pendant les gilets jaunes. Mais disons que moi qui adore les caricatures et qui les collectionne et qui en diffuse beaucoup sur ma page Facebook, les caricaturistes de l'Europe ont un plaisir fou. La claque sur la gueule, là, on l'oubliera pas de sitôt.
Honnêtement, 18 mois de prison, il faut pas baffer les chefs d'État, là, je suis d'accord.
Mais souviens-tu de Jean Chrétien qui avait reçu une tarte à la crème à l'île du Prince-Édouard?
Moi, je me souviens aussi du Jean Chrétien
qui avait pris le gars à la gorge par le cou,
comment il s'appelle, Bill Clanette.
Ouais,
il avait tassé du chemin. Les gardes du corps n'avaient même pas eu le temps d'intervenir. C'est Johnny qui s'est occupé de sa propre sécurité. Il avait été obligé de payer pour le dentier du gars, je sais pas quoi, hein? Tu te rappelles, Bill Clanette?
Oui, Bill Clanette, il avait
actionné, puis finalement, le fédéral avait payé pour son dentier parce que Chrétien l'avait saisi par le chignon, par le cou. Ah, boy, je te le dis. OK, ben Luc, on se reparle un peu plus tard.
Pas de claque sur la gueule à quiconque, là, ça peut coûter cher. À tantôt.
Oui, à tantôt. Je pensais qu'il était reparti, lui-là. Alors, après la pause, on va parler avec un nouveau leader syndical. Vous l'avez entendu à quelques reprises dans notre émission. Éric Gingras, moi, je l'ai connu du temps que j'étais député à Longueuil. C'est un gars pragmatique. Fait que quand j'avais besoin d'une voix un peu plus pragmatique, terre-à-terre dans le monde syndical, souvent, je me tournais vers lui. Et là, j'ai appris qu'il sera le futur président de la CSQ. Alors, petite entrevue avec Éric Gingras après la pause, parce que je pense que le mouvement syndical, là, ils sont comme à la croisée des chemins. Et puis, il faut qu'ils se remettent en question. Il faut qu'ils trouvent des nouvelles manières de parler au monde, puis surtout de parler à leurs membres qu'ils cotisent, n'est-ce pas? Alors, on s'en parle après la pause.